Laudetur Jesus Christus.
Des propos provocateurs aux visées expansionnistes. La conférence de presse du futur président américain n'a épargné personne hier. Du Groenland au Canada, en passant par le Panama. On y revient dès le début de ce journal. Et aux côtés de Donald Trump, dans la future administration américaine, le puissant homme d'affaires Elon Musk. Celui-ci répète les provocations envers l'Europe, dans son viseur cette fois-ci, le pouvoir britannique. Dans ce journal également, la Pologne, elle se prépare à la présidence qui aura lieu en mai. Également la liesse pour la réouverture de l'aéroport international de Damas en Syrie. Et en fin de journal, dans le dossier de Radio Vatican, ce matin, l'expert en énergie Thierry Brosse. Nous parlerons des enjeux du gaz dans la guerre en Ukraine.
Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
Bonjour à toutes et à tous. Il prendra la tête le 20 janvier de la première puissance économique et militaire mondiale. Le futur président américain Donald Trump a réitéré ses menaces expansionnistes lors d'une conférence de presse organisée hier depuis sa résidence en Floride de Mar-a-Lago. Donald Trump est revenu sur ses ambitions d'annexer le canal de Panama et le Groenland. Aucun voisin n'a été épargné. Le président américain a aussi menacé de faire usage de la force économique contre le Canada, Myriam Sandounou.
Oui, Marine, à moins de 2 semaines de son investiture à la Maison-Blanche, Donald Trump est déjà au centre des polémiques. Jamais un président américain élu n'avait menacé de façon aussi flagrante de recourir à la force pour élargir les frontières territoriales de son pays, soutient le New York Times. Donald Trump, reconnu pour ses propos provocateurs, menace d'utiliser la force militaire pour annexer le canal du Panama et le Groenland, territoire stratégique pour sa position au cœur de l'Arctique. Il estime que le contrôle par les États-Unis de ces 2 territoires est vital pour la sécurité nationale américaine. Le président élu a également dans son viseur le Canada, vous l'avez dit, qu'il souhaite voir rejoindre les États-Unis. Il a déclaré hier qu'il n'utiliserait pas la force militaire pour y parvenir, mais s'appuierait plutôt sur la force économique, des menaces devant lesquelles le Canada n'entend pas reculer. Et si beaucoup considèrent les propos de Donald Trump comme des provocations, pour les conseillers de Trump, ils font partie d'un plan plus grave, large, visant à freiner l'influence de la Chine et de la Russie.
Merci beaucoup Myriam Sandounou. Et toujours aux États-Unis, c'est un retour en arrière qui pourrait avoir des conséquences inquiétantes. Meta, la maison mère des réseaux sociaux Facebook, WhatsApp et Instagram, annonce supprimer son service de vérification des informations. À l'heure où la désinformation se propage de manière expansionnelle sur les réseaux sociaux, le revirement du patron de Facebook, Mark Zuckerberg, est perçu comme une volonté de plaire au prochain président Donald Trump, qui considère la lutte contre la désinformation comme un outil de restriction de la liberté d'expression. Et dans cette course à la libéralisation, Donald Trump s'est armé d'un bras droit, le propriétaire de la plateforme X, anciennement Twitter. Dans la future administration américaine, Elon Musk sera chargé de l'efficacité gouvernementale, avec pour objectif de trouver 2000 milliards de dollars d'économies. En attendant son arrivée à Washington, Elon Musk, également propriétaire de Tesla, crée déjà l'agitation en Europe. Accusé en décembre dernier d'avoir voulu influencer les législatives en Allemagne, cette fois-ci, une nouvelle fois, c'est le ministre travailliste britannique qui est visé, le premier ministre. Elon Musk accuse Keir Starmer d'avoir été complice de réseaux pédocriminels quand le premier ministre britannique était procureur général d'Angleterre entre 2008 et 2013. Dans le viseur d'Elon Musk, également la secrétaire d'État britannique Jess Phillips. Des accusations qui bousculent la classe politique en Grande-Bretagne. À Londres, Jean Jaffray.
À l'origine de la polémique, le refus de la secrétaire d'État d'autoriser une nouvelle enquête au niveau national demandée par la municipalité d'Oldham. Jess Phillips a estimé qu'une réouverture d'enquête serait plus appropriée au niveau local. La violence des propos d'Elon Musk, qui a 210 millions d'abonnés sur X, a amené Sir Keir Starmer à soutenir avec vigueur la secrétaire d'État, dont les mesures de protection ont été renforcées. Par ailleurs, il a aussi vivement critiqué Elon Musk, qui a récemment réclamé que soit libéré de prison Tommy Robinson, un leader d'extrême droite. Les conservateurs et Nigel Farage le chef du parti Réforme, se sont refusés à condamner les attaques au vitriol d'Elon Musk au nom de la liberté d'expression. Cette affaire embarrasse des membres du gouvernement qui, en coulisses, bien avant la victoire du Labour aux élections en juillet dernier, avaient pris des contacts avec l'entourage de Donald Trump afin de protéger les intérêts britanniques. Or, Musk, auquel on a proposé un poste de conseiller spécial dans la nouvelle administration, pourrait jouer un rôle influent dans les relations transatlantiques. Long Jean Jaffré, Radio Vatican.
C'est aujourd'hui le coup d'envoi de la campagne pour la présidence polonaise. D'ici le mois de mai, on devrait connaître le nom des successeurs d'Andrzej Duda à la tête de l'État. Et parmi les candidats, deux grandes figures que tout oppose. Karol Nawrocki, soutenue par les conservateurs du PiS. Elle fait face au maire de Varsovie, Rafał Trzaskowski, réputé libéral et pro-européen. Les précisions de notre correspondant à Varsovie, Adrien Sarla.
Il n'a pas attendu le lancement officiel de la campagne pour débuter la sienne. Depuis le mois de décembre, Karol Nawrocki, le directeur de l'Institut de la mémoire nationale, sillonne la campagne polonaise. L'enjeu pour l'ancien boxeur, se faire un nom auprès de l'électorat rural du PiS, le parti national conservateur qui le soutient.
Avec ce voyage à travers la Pologne, je suis là pour entendre la voix des citoyens des différents milieux et pour que mon programme électoral représente leur voix, celle des citoyens, des villages, des villes, de nos campagnes, car la voix des Polonais sera au cœur de mon programme.
Aujourd'hui, la course aux signatures peut officiellement commencer pour lui comme pour son principal adversaire, Rafał Trzaskowski. Connu pour ses positions libérales et pro-européennes, le maire de Varsovie se dit notamment favorable au rétablissement de l'état de droit, à la libéralisation de l'avortement ou encore à l'union des couples de même sexe. Avec Trzaskowski comme président, le premier ministre Donald Tusk aurait donc enfin les coudées franches pour mener la libéralisation de la Pologne, jusqu'ici entravée par le veto présidentiel de Duda.
Depuis des mois et des mois, on vous répète qu'on doit passer à la vitesse supérieure pour que toutes les promesses faites puissent être tenues. Et je suis persuadé que nous le ferons, car nous allons gagner les élections présidentielles.
La victoire de Trzaskowski en mai prochain viendrait renforcer l'identité européenne de la Pologne après 6 mois de présidence polonaise au Conseil de l'UE. Il est pour l'instant donné favori dans les sondages. Adrien Sarla, Varsovie, pour Radio Vatican.
Des milliers de sauveteurs recherchent activement des survivants après le séisme qui a frappé la région du Tibet dans le sud-ouest de la Chine. L'épicentre se trouve dans une région de haute montagne, non loin du versant chinois de l'Everest. Au moins 126 personnes sont mortes et 3600 bâtiments se sont effondrés. C'est un signe de reconnexion de la Syrie vers le monde. Après un mois de fermeture complète, l'aéroport international de Damas a ouvert à nouveau ses portes cette semaine. L'aéroport qui a fonctionné à minima pendant les 14 ans de guerre. Cette reprise des vols internationaux était très attendue en Syrie. Elle suscite à la fois enthousiasme parmi les employés et espoir économique. Le reportage à Damas de Mohamed Erami.
L'aéroport international de Damas reprend vie après un mois de fermeture avec des travaux de réhabilitation et le retour enthousiaste de centaines d'employés prêts à accueillir des vols en provenance de pays arabes et prochainement occidentaux, espère l'ingénieur Soumainala Ali.
Avant, nous recevions des avions en provenance de 40 pays arabes et étrangers. Mais pendant la guerre, toutes ces liaisons ont été interrompues, à l'exception de quelques pays arabes.
Le premier avion à atterrir à l'aéroport de Damas viendra de la capitale qatari, Doha, tandis que le premier vol de la compagnie aérienne syrienne décollera en direction de Dubaï, aux Émirats arabes unis. Toutes les démarches techniques et logistiques nécessaires ont été achevées, selon Anis Falouh, le directeur de l'aéroport.
Nous avons rétabli tous les programmes opérationnels de l'aéroport, le programme de sécurité et les plans d'urgence.
La reprise des activités de l'aéroport de Damas a également des retombées économiques. J'ai donc interrogé Mahmoud Elkan, professeur d'économie à l'université d'Alep, sur l'importance du retour des vols commerciaux en Syrie.
Le retour des vols commerciaux revitalisera de nombreux secteurs économiques du pays, notamment le tourisme, qui était une source importante de revenus pour l'économie syrienne.
La plupart des compagnies aériennes avaient suspendu leurs vols depuis et vers Damas en 2012, après que le régime syrien eut réprimé les manifestations populaires réclamant un changement lors des printemps arabes.
Un reportage de Mohamed Erami. Avant de passer à notre dossier, vous le savez, l'audience générale du pape François est à suivre en direct d'ici 9h sur notre site internet. Et à noter qu'une audience générale aura lieu également ce samedi. Une organisation inédite en cette année jubilaire. Plus aucun mètre cube de gaz, russe ne traverse le territoire ukrainien depuis le 1er janvier. Kiev n'a pas renouvelé l'accord signé avec Moscou en 2019 sur l'utilisation du gazoduc qui acheminait ce gaz russe vers l'Union européenne. Pour l'instant, l'effet de cette décision reste limité dans la plupart des pays de l'Union européenne, sauf ceux restés très dépendants du gaz russe comme la Slovaquie, où les prix risquent d'augmenter pour avoir accès paradoxalement à ce même gaz russe, car la fin du transit sur le sol ukrainien ne signifie pas que Moscou ne vend plus de gaz aux Européens. Les enjeux du gaz russe dans la guerre en Ukraine sont analysés ce matin par Thierry Bross. Il est expert en énergie et professeur à Sciences Po Paris.
Moscou vend du gaz à l'Europe suivant plusieurs canaux. D'abord, il y a ce qu'on appelle le gaz gazeux, donc celui qui est livré par des gazoducs. Et donc, il y a depuis le 1er janvier l'arrêt du transit via l'Ukraine. Par contre, il existe une autre route qui est via la Turquie, via le pipe sous-marin qui s'appelle le Turk Stream et qui ensuite remonte en Europe. Ça, c'est pour le gaz gazeux. Et puis, ça, c'est Gazprom qui a ce monopole des exportations. Et puis, il existe du gaz naturel liquéfié qui est livré par bateau. Et là encore, Moscou continue à vendre du gaz naturel liquéfié à l'Europe et au reste du monde.
Si depuis le début de l'invasion ukrainienne et surtout depuis le sabotage du gazoduc Nord Stream en mer Baltique, plusieurs pays européens ont diversifié leurs sources d'approvisionnement, d'autres, notamment la Slovaquie et la Hongrie, sont restés très dépendants du gaz russe. Quel impact sur ces pays gouvernés, faut-il le rappeler, par des majorités plutôt proches du Kremlin?
Ces pays proches du Kremlin ont décidé de ne pas faire de diversification. Rappelons aussi, enfin, que le gaz russe est moins coûteux. Et donc, effectivement, pour ces pays, c'était plutôt une bonne affaire. Aujourd'hui, eh bien, ces pays se retrouvent un peu comme l'Allemagne au lendemain du début de la guerre en Ukraine et vont devoir à faire face à des choix douloureux, c'est-à-dire une augmentation de leurs factures gazières et devoir, dans l'urgence, trouver des solutions.
La stabilité de l'Union européenne peut-elle se retrouver bousculée?
Alors, je crois que Moscou joue sur cela. Il se peut que certains États européens, la Slovaquie en particulier, fassent valoir ses droits en disant « nous ne pouvons pas avoir d'autres alternatives qui soient financièrement acceptable et donc nous avons besoin de ce gaz, même si moralement, tout le monde est d'accord, acheter du gaz russe est une erreur.
Quelles peuvent être les conséquences financières pour la Russie qui finalement renonce à 5 milliards de dollars par an de vente de gaz russe?
Vladimir Poutine ne regarde pas finalement la donnée financière, mais à un moment, la réalité financière va heurter le mur du Kremlin. Et donc, on peut imaginer que Vladimir Poutine peut espérer fissurer l'unité européenne, mais il a, lui, un problème économique et un problème de profitabilité de ce qui était jadis le joyau de la couronne russe, c'est-à-dire Gazprom.
L'Ukraine semble être la seule à se satisfaire de sa décision de ne pas renouveler le contrat de transit de gaz russe sur son territoire. C'est une décision qui finalement pénalise aussi ses propres soutiens.
Je crois qu'avec des prix du gaz qui pourraient remonter, l'Union européenne pourrait se retrouver un peu coincée. Je rappelle que la première mission du commissaire à l'énergie, c'est d'avoir un prix de l'énergie peu cher pour l'Union européenne. Et donc, la question des États va être, est-ce que l'on peut continuer à faire confiance à l'Union européenne pour avoir de l'énergie peu chère, ou est-ce que finalement il faut aller se débrouiller soi-même et on pourrait avoir des pays qui iraient en ordre dispersé, certains à Moscou, d'autres à Washington, pour essayer de récupérer l'énergie qui nous fait grandement défaut en Europe.
Voilà, interrogé par Jean-Charles Puzolu, l'expert en énergie et professeur à Sciences Po Paris, Thierry Bross, était ce matin notre invité. Merci de votre écoute. L'information revient en direct de Rome tout à l'heure à 13h. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.